Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien bonjour à tous, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie pour une 17e émission. Aujourd'hui on va... tout le monde doit être déçu, Ben n'est pas là, Ben est encore grippé. Mais on va faire sans, hein. il faut bien assurer. Mais on a deux invités, alors un qui est à côté de moi, de Thierry Lemaire, et un autre, Hugues Lemaître, alors il ne faut pas que je confonde, qui lui a été retenu dans sa bosse chartraine pour des raisons familiales, mais qu'on pourra joindre au téléphone. Alors vous l'avez compris, si vous connaissez Thierry et Hugues, vous l'aurez compris qu'on va parler d'agriculture, mais vous pouvez aussi ne pas connaître Thierry et Hugues. Alors, je vais vous les présenter. Alors, Thierry Lemaire, lui, est administrateur ancien, donc ingénieur agronome, administrateur de Terre de Liens. Terre de Liens, vous le savez peut-être ou pas, c'est le plus gros propriétaire de foncier agricole en France, du moins... on va développer ça tout à l'heure. Et puis, lui, Hugues Lemaître, c'est un paysan artisan. Alors, il exploite il produit du blé autour de la cathédrale de Chartres, ou du moins pas très loin. Mais il est aussi trieur de semences. Alors, trieur de semences de ferme. Je vous expliquerai ce qu'est ce métier, puis il le fera lui-même également. On va aussi parler de questions d'orientation agricole, de la question de la maîtrise foncière. Vous verrez que c'est excessivement important, cette question de la maîtrise de la terre, parce que qui maîtrise la terre décide un peu ce qu'on y produit. C'est l'actualité nous rattrape. C'est aujourd'hui que doit se décider en commission paritaire les derniers arbitrages sur le texte de proposition de loi sur la loi d'orientation agricole, texte qui est attendu depuis X temps et qui, semble-t-il, pourrait être très, très décevant. Mais bon, on regardera ça dans les détails. Alors, je vais laisser Thierry Lemaire se présenter un peu plus et puis expliquer ce que c'est que ce plus grand propriétaire de terres agricoles de France. Je le vois... tordre un peu du nez, parce que c'est pas d'habitude comme ça qu'on les présente. Mais allez-y, c'était un peu provocateur.
Oui, je m'en doute. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis tombé dans l'agriculture tout petit, pourtant ma situation familiale m'y prêtait pas. J'étais en ville, une petite bourgeoisie de province. Je suis tombé dans l'agriculture et dès que j'ai pu, j'ai fait des études d'agronomie, effectivement. Et puis après, j'ai essayé, je me suis installé comme agriculteur avec des collègues de l'école.
Dans quel coin ?
Dans le Gers, avec des vaches laitières, faut avoir
envie dans le Gers. D'habitude, c'est plus l'Armagnac dans le Gers, c'est plus l'Armagnac
et le foie gras. C'est juste en périphérie de l'Armagnac, tout à fait. Et puis, j'ai continué. Bon, j'ai professé pendant 10 ans. Et puis, pour des raisons.
Alors, j'ai vu sur votre bio, vous avez fait aussi un parcours par le CIRAD, vous étiez un peu dans les pays.
Je suis allé pas le CIRAD, mais effectivement, le Agronomie Vétérinaire Sans Frontières. Donc, je suis parti en Amérique latine, toujours auprès de paysans, ce qui permet d'avoir un regard sur ce qui se passe chez nous aussi et sur la France qui nourrit le monde, voilà. Et puis je suis revenu en France et là j'ai plus travaillé sur des questions, toute la relation entre agriculture et environnement.
Vous êtes bien au cœur du sujet, puisque effectivement le titre de l'émission c'était agriculture, écologie, sont-elles des sœurs ennemies? Ce que je dis, c'est que elles peuvent à la fois être en confrontation ou en connivence, mais bon, dernièrement, il y a eu quand même beaucoup de confrontations et on voit de quel côté penche la balance aujourd'hui. Mais expliquez-nous aussi ce que c'est que Terre de Liens. Alors, je vais peut-être mettre nos auditeurs un peu sur la piste. Donc, Terre de Liens, c'est une fédération d'associations qui a cette idée que moi, j'ai trouvée vachement intéressante en 2003, de se dire, puisque on ne réussit pas à faire comprendre, grosso modo, à infléchir les orientations agricoles d'un point de vue politique, prenons les choses à bras-le-corps et puis devenons propriétaires de terrain pour pouvoir mettre chez soi, orienter les choses vers les pratiques d'agroécologie et puis agriculture biologique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc effectivement imposer une autre forme d'agriculture. Alors, moi, j'ai trouvé ça génial. Et en 20 ans, vous avez réussi, d'après vos documents, à pouvoir maîtriser 11 000 hectares.
Oui.
Alors, quand je dis que vous êtes le plus gros propriétaire terrien, c'est presque ça, puisque tout le monde sait que la propriété foncière agricole, c'est une espèce de grosse nébuleuse. C'est la partie cachée de l'agriculture. Personne n'en parle clairement. On n'a pas de classement officiel. Y compris les stats de l'INSEE sont pas tout à fait idéales pour maîtriser tout ça. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de propriétaires agricoles. Donc c'est somme toute un héritage de l'histoire, l'héritage de l'époque où presque 50% de la population française était agricole au 19e siècle, et encore en 1955, qui est une date clé, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, était encore représenté 27% de la population active. Donc cette question du foncier est essentielle. Et donc, comme je vous le disais, 4 millions pour 28 millions d'hectares, c'est ça la SAU ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est extrêmement émietté. Et donc, ça veut dire qu'avec 11 000 hectares, vous êtes vraiment un gros propriétaire. Mais c'est, je trouve que ça, c'est quand même bien.
Moi, je n'irai pas jusque-là, parce qu'en plus, comme vous le disiez, il y a des choses qui sont
un peu masquées,
cachées, un peu masquées, surtout avec le phénomène sociétaire qui grandit à l'heure actuelle. Enfin, pour revenir, à l'origine, les pères fondateurs avaient, et c'est l'esprit qui nous guide toujours actuellement, cette terre agricole, elle disparaît, elle est attaquée de tous côtés, donc il faut la préserver, il faut préserver de la terre agricole. C'était pas évident, en 2003, on parlait de préservation de la nature, choses comme ça, mais pas grand monde parlait de préservation de la terre agricole. Et puis, l'idée aussi que cette terre agricole, plutôt que de la laisser être un objet de spéculation, de marché, un bien qu'on vend, qu'on revend, sur lequel on essaie de faire des bénéfices, profit, oui. Finalement, on revient à ce que nous, on pense que ça doit être, c'est un bien commun. Parce que quand vous dites qu'on est le plus gros propriétaire, c'est pas un propriétaire, c'est 21 000 actionnaires.
Oui, non.
Parce que la majeure partie des 400 fermes sont achetées avec l'épargne solidaire des citoyens. Donc c'est avant tout un mouvement citoyen. Qui concerne vraiment tout le monde. Et avec le pendant, d'ailleurs, c'est que dès le début, Terre de Liens a voulu être et s'inscrit bien dans une démarche d'éducation populaire, puisque en plus d'acheter des fermes pour installer en agriculture biologique des paysans plus ou moins jeunes, on essaie d'informer au maximum le citoyen lambda. On essaie d'expliquer les choses, de montrer à quoi sert l'agriculture ou à quoi elle devrait servir. Et puis, on s'adresse également aux élus parce qu'il y a tout un pan de notre action qui est orienté pour essayer de conseiller les collectivités.
Quand je dis que vous êtes propriétaire, bon, c'est, tout le monde l'aura compris, c'est effectivement une propriété fractionnée entre 400 fermes, à la différence des propriétaires agricoles habituels qui, au contraire, vont essayer de constituer des terres agricoles d'un seul tenant. Donc là, on n'est effectivement pas du tout dans le modèle. Après, vous parliez aussi que d'autres peuvent être très gros. Bon, alors il y a ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, à commencer par la Caisse des dépôts, qui gère beaucoup de choses. Mais dans le papier, c'était un papier du Nouvel Obs qui parlait de ça, bon, je pense qu'il faisait aussi une confusion avec la propriété forestière où les zinzins sont plus représentatifs, ont plus de surface. Ils citaient comme plus gros, alors ils citaient AXA aussi comme assureur, mais je pense que là aussi, c'est, pour l'essentiel, ça doit être de la propriété forestière, donc c'est un autre sujet. Mais après, ils citaient à 12 000 hectares, ils citaient le crédit agricole. Donc, grosso modo, là, on peut penser
que crédit agricole. Mais on assiste aussi à ce qui inquiète, à des acquisitions réalisées par des grands groupes. Ça peut être des parfumeurs, Chanel ou compagnie, qui vont acheter des hectares de lavande, etc. Et comme sont des sociétés, après, le système de régulation, parce qu'on a en France, il faut le dire haut et fort, on a quand même un système de régulation d'accès aux fonciers et du marché foncier. On a le bonheur d'en avoir un, contrairement à ce qui
donc
se passe.
Donc la SAFER
pour être clair. Mais à partir du moment où c'est une société, malgré quelques maigres avancées législatives récentes, ce qu'appelle la loi Sans Passe-Tout, qui donne la possibilité de regarder pour partie les échanges de parts. Tout ce qui est part sociale échappe au contrôle des structures, au contrôle du marché du foncier.
Donc, grosso modo, pour expliquer, c'est effectivement tout échange de terres contrôlé par la SAFER, sauf si le propriétaire est une société et où cette...
Ou si ça se passe dans la famille aussi.
Voilà. Donc, si dans une société, si on ne vend pas d'un bloc l'ensemble des actions, donc si on va vendre quelques actions de propriétaires d'une surface, eh bien, la SAFER ne peut pas agir. Donc, c'est un moyen à utiliser quelquefois pour détourner, échapper au contrôle, parce que dans les campagnes, il y a quand même aussi beaucoup de courses à la surface.
Oui, et y a eu tout un mouvement d'organisation de sociétés agricoles dans les années 70-80, et qui perdure, qui continue à évoluer, et qui partait d'une logique normale, de séparer le bien, les biens personnels, le patrimoine familial, et puis le patrimoine de production. Et ça, bon, ça se fait un peu dans tous les corps de métier, etc. Bon, ça paraît logique. Mais très vite, un certain nombre de gens, d'agriculteurs s'en sont emparés et pour monter des sociétés, des grandes familles. Parce qu'ils se sont aperçus très vite, bien conseillés par leur notaire d'ailleurs, donc c'était une façon de pouvoir
de
contrôler leur patrimoine foncier sans être contrôlé par qui que ce soit.
À la limite que des gens se constituent un outil de travail, veuillent étendre leur portefeuille, bon, c'est un peu la nature de l'économie, on ne va pas tout changer...
Non, mais le problème, c'est que il faut à ce moment-là le mettre au miroir au regard de ce qui se passe actuellement. C'est que bon, il y a 400 000 agriculteurs en France. Ils ont mon âge, ils sont prêts, ils partent à la retraite, hein, et donc il y en a 200 000. Il y en a la moitié qui sont en train de partir à la retraite
dans les 5 ans à peu près.
Et quand vous avez,
mais ça, on le sait depuis 20 ans.
Oui, on le sait.
La pyramide des âges, c'est extrêmement facile à comprendre.
Oui, mais ça, c'est facile à comprendre. Le problème, c'est que il y a de moins en moins de fils agriculteurs. Avant, c'était classique. Voilà, il y avait toujours quelqu'un qui sortait, qui reprenait la ferme. Ça, les agriculteurs ne se reproduisent plus, si je peux me permettre, ou beaucoup moins. Et il y a rien qui est fait pour trouver des repreneurs. Il y a une appétence, il y a du monde qui a envie de
pratiquer l'agriculture. Oui, c'est ça peut-être le paradoxe, c'est que d'un côté, il y a les fils d'agriculteurs qui ne veulent pas reprendre le travail de papa parce qu'ils ont vu ce que ça voulait dire. Et souvent, on appelle ça planter la fourche, piquer la fourche, on arrête le métier. Le métier ne fait pas envie aux enfants, mais à côté de ça, par exemple, il y a des urbains pas urbains d'ailleurs, qui peuvent avoir envie de devenir agriculteurs. Et aujourd'hui, l'organisation du marché fait que ces gens-là n'ont
pas accès, voilà, ils n'ont pas accès au foncier, parce que c'est très difficile de savoir ce qui est libéré ou pas. Et pour revenir sur le point de l'augmentation des structures, on arrive à des choses énormes, et il faut un capital monstrueux à mobiliser quand vous avez quelqu'un est incapable d'investir. Et donc, du coup, ça va plutôt être des sociétés. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'agriculture. Et nous, ce qu'on reproche à cette tendance-là, c'est que, c'est plus qu'à faire de capital. On ne parle plus d'agriculture. À quoi ça sert l'agriculture ? Ça sert officiellement, encore de nos jours, à nous nourrir. À nous nourrir comment ? Donc, quelle réflexion on a sur la qualité de l'aliment ? Le capital, il est là, il n'en a rien à faire. Savoir si c'est du blé, du riz ou des sacs Louis Vuitton.
Ou si pour atteindre ces fameux 100...
C'est avoir un taux de rentabilité du capital. Et à ce moment-là, on arrive en matière d'agriculture à une simplification extrême.
On va en parler.
On va y revenir. Oui. Des systèmes, etc. Mais pour toute la question, la concentration, et on va vers une concentration des terres, enfin, et vers l'agrandissement, c'est systématiquement. Tous les 6 ans, on reprend les schémas qui régissent un peu les tailles, qui donnent des critères pour attribuer certaines aides, contrôler un peu tout ça. Et tous les 6 ans, on augmente de 10-20 hectares la taille
moyenne,
officielle. Officielle des exploitations.
Parce qu'effectivement, il y a aussi... Il faut bien comprendre que cette question du foncier est extrêmement opaque et masquée, à commencer par le fait que l'INSEE n'a pas de catégorie pour permettre de repérer les grandes exploitations. L'INSEE se limite toujours depuis presque 50 ans, voire plus, à 400 hectares. Au-dessus de 400 hectares, vous pouvez avoir 1000 hectares, 3000 hectares, eh bien, ça n'apparaîtra pas dans les statistiques de l'INSEE parce que l'INSEE est resté bloqué à 400 hectares. 400 hectares, quand j'étais gamin et que j'allais sur le tracteur de mon oncle, c'était, mais franchement, le bout du monde. Sauf qu'aujourd'hui, c'est extrêmement banal, 400 hectares. Et il y a aussi des méthodes qui permettent de constituer d'énormes entités de agricoles en regroupant des exploitations de gens qui sont à la retraite et qui profitent encore des primes. Et quelquefois, il y a des unités comme ça qu'on peut repérer, notamment parce qu'ils ont du machinisme agricole démesuré. Eh bien, ça peut atteindre 6000 hectares, 5000 hectares. On parle de...
Oui, mais même une seule personne peut avoir... plusieurs exploitations, en fait. Bon, il y en a un qui est très connu et qui parle régulièrement au nom des agriculteurs.
Oui, oui, monsieur Rousseau, oui.
Voilà. Et donc, c'est tout un tas de systèmes comme ça qui fonctionnent. C'est de l'optimisation. C'est totalement légal.
Oui, à la limite, moi, je ne suis pas hostile au fait qu'il y ait des grosses structures. Le small n'est pas toujours beautiful. Il peut aussi avoir un intérêt à faire des économies d'échelle. Mais le problème, c'est que c'est absolument masqué. Tout ça avance masqué.
Oui. Les économies d'échelle en agriculture, je pense que vous allez y revenir, ça veut dire des atteintes à l'écologie, puisque ça veut dire, par contre, prends juste l'exemple, les parcelles, il faut toujours agrandir les parcelles. Excusez-moi, des parcelles de 10, 20 hectares, et ça, c'est quelque chose qui devient fréquent dans les plaines de l'Est ou du Nord. C'est un peu dur pour la vie sauvage et la biodiversité.
Surtout que fondamentalement, c'est pas tellement la taille de la parcelle qui est déterminante, c'est avoir à peu près un multiple de la longueur de la barre de coupe, éviter de faire quelques allers-retours inutiles, mais après qu'une parcelle soit divisée par une haie, c'est pas bien méchant. On peut avoir.
C'est pas bien méchant, mais c'est pas la tendance. Hein. Il y a un certain nombre de gens qui financent des replantations de haies, des gens qui s'acharnent à promouvoir l'agroforesterie, etc. C'est d'ailleurs un effet pernicieux de la PAC dont on parle peu souvent, mais un hectare pour la politique agricole commune pour toucher les sous, si c'est un hectare de blé, ça doit être un hectare de blé. Si vous avez le malheur d'avoir quelques mètres carrés de haies ou de bandes enherbées en bordure, et que vous l'avez déclaré en blé, le contrôleur de la PAC qui vient vous voir vous dit « Mais monsieur, il faut retirer ça. » Et en plus, je vous fous une amende de 10%, etc. Mmh. Et donc, qu'est-ce que fait l'agriculteur, logiquement, dès qu'il peut, il prend sa tronçonneuse ou le bulle du voisin. Oui,
c'est plus le schéma du remembrement où la haie va empêcher le tracteur de passer. Aujourd'hui, si on va supprimer les haies, bien souvent, c'est pour se simplifier la vie et notamment éviter une forme de bureaucratie ou de moins technocratie. Et alors que fondamentalement, elle ne gêne pas vraiment la machine.
Ça dépend où vous vous trouvez, mais effectivement, on entend, c'est quand même un argument qu'on entend encore.
Oui, mais je pense que c'est un mauvais argument. Et il serait bien de regarder, puisque souvent les gens disent il faut des choses simples, regardons les choses pratiques, et dans la réalité, c'est un faux argument, il y en a beaucoup d'autres faux arguments. Mais bon, on va, je pense... écoutez une petite musique, je sais plus laquelle que c'est.
En meutre levons-nous, nos souffles courts, nos poids dressés, nos cris plus forts encore ensemble. Comme d'un seul corps, relevons-nous en meute, en meute, en meute, en meute.
Il est tard.
En meute.
Le temps se fait sale.
En meute.
Tu le sens qui t'avale.
En
sous
meute.
Son grand tapis noir.
En
mais ton
meute.
Ciel se dédouble.
En
silence.
Meute.
Les oreilles dressées, tu frissonnes. Flaire
en
la
meute.
Couleur chaude semblable
en
au
meute.
Genre humain. Dans la nuit
en
qui
meute.
T'appelle, il n'est pas
en
loin
meute.
Le bout du monde.
En
la
meute.
Nuit. La nuit qui ne t'emprunte ni te prête. La nuit
en
qui
meute.
Suit le jour dans un
en
silence
meute.
Aigu.
En meute, en meute,
en meute, entacéré toute griffe dehors. Plus proche encore, plus près, allez, allons rôder.
En meute,
pupille rivée, guettons l'aurore, la nuit ne fait
allons,
que
allons,
commencer.
Hurlons ensemble, en meute, aux abois, aux aguets, pupille rivée, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller. En meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
France. Attends, faudra que je désannonce ça. Allô, oui, voilà. Non, c'est pas allô. Bon, c'était la meute, quatre filles des Alpes qui, vous l'avez vu, ont une musique un peu... claquante et bien engagée. Mais si vous voulez les suivre sur Internet, n'oubliez pas de taper lameute.net, parce que la meute, c'est aussi, quand on ne met pas cette précision-là, ça peut vous amener sur d'après Wikipédia, également sur des groupes plutôt d'extrême droite, pas très recommandables. Donc ne confondez pas la meute des filles avec... La meute des fachos, pour être clair. Bon, bah Thierry, on va, ça y est, on a Hugues à l'antenne. Eh bien, Hugues, tu m'entends ?
Oui, je t'entends bien.
Ah, mais génial. Alors bon, Hugues, t'as été retenu dans, à l'ombre de la cathédrale pour des raisons familiales, dommage, moi qui espérais te voir dans le Grand Paris. Alors, je t'ai présenté très rapidement, mais tu vas revenir. Donc, effectivement, t'es agriculteur, pas très loin de... redis-moi le nom de ta commune, parce que je l'écorche à chaque fois.
Bailleul-l'Évêque.
Oui, donc, c'est à, on va dire, à 10 km au nord-ouest de Chartres. Donc, t'es exploitant agricole. Bon, bah, tu fais de la céréale, puisque c'est quand même un pays...
Bien sûr, voilà.
C'est un pays à de grains. Mais ce que je disais à Thierry, notre invité, que tu ne peux pas rencontrer, hein, malheureusement, il y a 40 ans, quand tu es rentré dans le métier à la suite de ton père, plutôt que de courir après les hectares, toi, tu as choisi de prendre une activité complémentaire, à savoir le triage de semences de ferme. C'est bien ça ?
Tout à fait, tout à fait. Voilà.
Ok, alors aujourd'hui, explique-nous, tu as combien d'hectares ? Comment tu vois l'avenir ?
Ah, alors déjà, oui. En fait, je reprends le premier propos. J'avais pas trop le choix. En fait, c'est pas que je pouvais pas courir après les hectares, c'est qu'il y en avait pas de disponibles.
D'accord.
Et c'est très compliqué parce qu'il y a une grosse concurrence pour reprendre des fermes dans le secteur.
Ok, donc tu avais plus gros que toi pour les reprendre, si je comprends bien.
C'est pas forcément ça, mais c'est souvent ça.
D'accord.
Voilà. Et du coup, après, c'est complexe, ces affaires-là. Mais pas de solution pour agrandir la ferme qui faisait 50 hectares, j'ai dû trouver quelque chose d'autre pour améliorer, on va dire, l'ordinaire. Qui plus est, peut-être même pour pouvoir continuer à exploiter ma ferme, parce que c'était une dimension critique à l'époque et qu'il le reste encore davantage. Parce que de 50 hectares, je suis passé à 75 ou 73 avec des prairies qui rapportent rien dans un périmètre de protection de captage d'eau potable.
D'accord.
Bon, et pour, donc j'exploite bien 73 hectares, donc 25 en herbe. Et puis, c'était quoi la question ?
Explique-nous aussi ton autre métier maintenant de semences de ferme.
Du coup, j'ai dû trouver une activité complémentaire. Et un peu par le hasard de relations amicales, j'ai été mis le pied à l'étrier sur l'entreprise de travaux agricoles dans spécifiquement le triage et le traitement des semences de ferme.
Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est que la semence de ferme. Hein. Tout le monde n'a pas lu le livre pour un grain de liberté.
D'accord. En fait, c'est tout simplement une pratique, on va dire, ancestrale de l'agriculteur qui, pour ensemencer ses parcelles de la campagne suivante, en prélève une partie de sa récolte.
Pour la ressemer, quoi.
Pour la ressemer. Tout simplement. Et cela dit, la récolte, elle est ramassée avec tout un tas d'impuretés. Hein. C'est la moissonneuse-batteuse, elle ne fait pas un nettoyage précis et affiné. Donc, mon métier, c'est d'avoir un système de ventilation et de grille pour faire en gros, ne conserver que le bon grain.
Voilà.
Séparer le bon grain de l'ivraie, comme on disait.
Voilà, et l'ivraie étant
une mauvaise herbe alcaloïde,
si je ne me trompe pas, c'est-à-dire un peu toxique sur les bords.
Sans doute.
Voilà.
Bon, je l'ai repris, hein, mauvaise herbe, on n'emploie plus ça, on parle d'herbe indésirable. Hein, parce que les herbes sont toutes bonnes, malgré tout, elles ont forcément des vertus quelque part qu'on ne connaît pas forcément non plus.
Hein. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Mais bon, que veux-tu ? Le langage a ses habitudes.
Alors du coup, je me suis engagé à ça parce qu'on m'a un petit peu demandé si j'étais prêt à m'y lancer. au moment où en 1989, le ministère de l'Agriculture a signé un décret qui nous interdisait ce travail-là. Il faut savoir qu'il existait déjà avant que je le fasse. Et puis, il y a eu des grosses pressions de la filière semences certifiées qui voulaient plus du tout permettre cette faculté de l'agriculteur de ressemer sa récolte.
Alors, donc, effectivement, il y avait les semenciers qui voyaient d'un mauvais œil les artisans comme vous préparer des semences. Oui. Et puis, il y avait aussi, on va dire, tout l'agro-industrie, à commencer par, y compris les coopératives, qui voyaient d'un mauvais œil des petits artisans leur prendre le boulot qui...
Oui, avec la petite nuance, c'est qu'il existe, les coopératives, certaines, avaient ce service-là.
Oui, mais alors...
Mais en parallèle, mais le décret a tout arrêté d'un seul coup.
Aligre FM 93.1.
Oui, alors on va pas faire le tout expliquer sur la semence de ferme.
Non.
C'est vrai que c'est bon. Je vous invite à aller. Je vais pas me gêner pour faire de l'autopromotion, puisque pour un grain de liberté édité aux éditions de L'Aulnay, donc où on peut le commander en ligne. Mais bon, effectivement, ceci étant, c'est un rapport avec le débat d'aujourd'hui, qui est la question de l'orientation de la politique agricole, et que ce soit par le biais du foncier, mais aussi en imposant une politique presque essentiellement tournée vers le blé, on a imposé, on a fait de la question du blé presque une question d'État. Et aujourd'hui, 70 ans après, on est à peu près incapable de réorienter la politique agricole française, parce qu'il y a une forme d'inertie de l'orientation essentiellement sur le blé. Et il est comme Terre de Liens vient de le sortir dans son rapport, quand on parle de souveraineté, ben c'est quand même extrêmement discutable, cette notion, puisque si 50% de la production céréalière est exportée, en contrepartie, on est obligé d'importer énormément de tonnes de phosphate, d'utiliser des pesticides et autres, et là, c'est pour beaucoup de choses des denrées qu'on importe. Autre notion, c'est que pour atteindre cette... Alors, je vais vous la raconter vite, cette histoire. C'est qu'en 1955, la France avait une moyenne de production de l'ordre, je crois, de 20 quintaux hectares. Et aujourd'hui, on est à 72, avec des pointes à 100. L'objectif est de dépasser, pour un céréalier, c'est de dépasser les 100 quintaux. Sinon, il ne fait pas un beau boulot.
Ça plafonne maintenant.
Oui, ça effectivement, le réchauffement climatique vient contrarier un petit peu tout ça. Mais il faut comprendre que, effectivement, si 100 quintaux, ça peut paraître un bel exploit sportif, presque, il y a une contrepartie. C'est qu'on ne fait pas 100 quintaux de blé sans un petit peu de dopage. Et dopage au nitrate, notamment, au phosphate et autres. Donc, effectivement, il faut savoir que les concurrents du blé français, le blé russe, c'est des moyennes, ou même le blé américain, c'est des moyennes à 30 quintaux, parce qu'ils sont beaucoup moins denses. Donc, la France, n'atteint ce niveau de production que parce qu'elle a, entre guillemets, certes, amélioré la génétique, probablement, mais aussi parce qu'elle continue à doper ses champs. Si c'est ça être compétitif, comme la loi de programmation d'orientation agricole le prévoit, eh ben non, c'est du dopage. Et c'est du dopage écologique, et c'est franchement pas ce qu'on attendait de cette loi de programmation, Thierry. Bon, allez, je te laisse.
Mais le souci avec déjà, il faut bien se mettre en tête, effectivement, en termes de balance commerciale, on ne nous dit pas tout, puisque, effectivement, on oublie de nous dire qu'on importe tous les engrais, que ce soit les engrais, le phosphate qui vient du Maroc, par exemple, ou le pire, donc pour moi, ce sont les engrais azotés,
oui.
Parce qu'eux, ils sont produits à partir du gaz.
Avec du méthane.
Du gaz russe, notamment.
Donc, ce qui n'est pas compris donc, dans le nom.
Et donc déjà, ça pose un énorme problème. Déjà, on est sur une... on va dans le mur, puisqu'on ne va pas pouvoir en produire autant qu'on en produit pendant... les ressources de gaz et de pétrole vont...
Oui, mais on ne sera plus là, je crois.
Si on continue à tirer du gaz de schiste ou des choses comme ça, mais enfin, quand bien même, c'est une ressource finie et qui pollue énormément. Parce que, autre coût qu'il faut rajouter, c'est toute la pollution de l'eau. Hein, et c'est 40% de la... Du budget des agences de l'eau qui est dédié pour qu'on puisse avoir de l'eau à peu près correctement buvable et propre. Et on entend ce qui se dit actuellement sur
les informations
qui sont. Oui.
Et, à des niveaux qu'on n'avait pas soupçonnés il y a quelque temps.
C'est des coûts à ramener. Voilà. Au bout du compte, avec des produits comme le blé tendre, c'est de l'agriculture de masse, c'est pas vraiment de l'alimentation de grande qualité. De toute façon, il n'y a que 15% du blé qui reste en France qui est utilisé à l'alimentation humaine, hein, pour la meunerie. Pour faire des farines, parce que le reste, c'est pour nourrir des animaux, etc. Et donc, on est dans toute une spirale. On a, comme c'est une agriculture de masse, qui pollue et qui produit une alimentation de faible qualité, finalement, ça a une répercussion également sur toutes les dépenses de santé. Si on ne veut que accumuler les chiffres et voir qu'est-ce qui est rentable, on nous vend une rentabilité qui est totalement...
Oui, une soi-disant compétitivité qui est tout à fait illusoire. C'est presque une imposition. Pour moi, c'est une imposture, cette histoire-là. Et tout ça, c'est quand même sacrément bien maquillé. On nourrit la planète et autres poncifs du genre. Il y a une forme d'arnaque.
Oui, on nourrit pas la planète, puisque effectivement, dans le rapport, on s'aperçoit qu'on est obligé d'importer. On importe des choses que l'on peut produire chez nous, largement avec le potentiel, parce qu'on a des terres quand même de bonne qualité, un climat, même s'il évolue mal, mais encore un climat tempéré. Pour avoir travaillé sous les tropiques, je peux vous dire que quand même, on a des facilités, c'est plus simple de produire, d'être agriculteur ici, chez nous. Voilà, mais on importe un tiers de nos fruits et légumes.
On fait au final, la PAC a conduit une forme de spécialisation de production agricole, comme il y a une spécialisation industrielle, mais le souci c'est qu'effectivement on attaque la résilience. Et puis quelque part, je ne sais pas si nos stratèges économiques ont fait le calcul, mais... La production céréalière, c'est peut-être pas la plus rentable, puisqu'ils veulent parler d'argent. Parlons d'argent. Un hectare de blé, c'est 1500 euros. Un hectare de patates, c'est 15 000 euros. Un hectare de cassis, c'est 15 000 euros, me disait Marc-André Sellos il y a quelque temps. Donc, alors, je ne sais pas combien pourraient rapporter les oignons outre légumes, mais il y a d'autres productions plus rentables. Parce que quand on dit compétitivité, ça ne veut pas dire qu'on va bien faire vivre les agriculteurs. Donc, moi, je suis pour qu'on ait une agriculture économiquement efficace. Et qui puisse permettre de payer les agriculteurs. Et ce n'est pas le cas. Les gens
ont... Non, il n'y a que 10 à 20% des agriculteurs qui vivent correctement. Il y en a une moitié qui s'en tire bon an mal an, mais en fait, ils bossent pour quoi ? Ils bossent pour payer tout ce qui est en amont, ils bossent pour payer les tracteurs, ils bossent pour payer les engrais, ils bossent pour payer tout ça.
Oui,
et puis à la fin, il ne leur reste pas grand-chose. Et puis, il y a quand même une bonne frange d'agriculteurs qui sont moins 15 à 20% qui sont dans des situations dramatiques.
De précarité terrible.
De précarité.
Et qui sont pressés.
Qui ne tirent pas de revenus.
Et quelque part, on a l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Ils sont dans la seringue, quoi. Et c'est souvent ceux qu'on a peut-être vu manifester l'année dernière, sauf que eux, ils veulent pas être plus compétitifs sur les marchés internationaux à la bourse de Chicago. Ils s'en fichent un petit peu. Ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de revenus. Et il y a une forme de confusion entre les deux notions. celle de Monsieur Rousseau qui veut être compétitif parce que lui il exporte, et puis celle de l'agriculteur lambda qui lui veut avoir un peu plus de revenus à la fin de l'année. Et c'est pas la même chose. Et quand la commission sénatoriale parle de rendre, met en premier lieu, premier objectif que l'agriculture soit compétitive, c'est une vraie arnaque sur le principe. Parce qu'elle ne dit pas qu'elle veut que les agriculteurs vivent mieux. Elle dit qu'il faudrait qu'on soit plus compétitif sur le marché du blé. Mais on s'en fout, quoi.
Oui, et puis ça veut dire que on expulse une fois de plus une bonne majorité des agriculteurs. Il n'y a que les gros qui résisteront et qui pourront, à force d'engrais et de grandes surfaces et de simplification des systèmes, etc., qui arriveront à résister. Parce que la compétitivité, la compétition, elle se fait, en fait, on met les agriculteurs en compétition. Au passage, d'ailleurs, quand on dit qu'on nourrit la planète, pour avoir travaillé avec des petits paysans d'Amérique latine, mais c'est la même chose en Afrique ou ailleurs, eux, ils ne sont pas du tout compétitifs par rapport à nous. Surtout que il y a autre chose. Quand on parle de la PAC, c'est 9 millions d'euros qui arrivent par an pour financer, l'agriculture en France. C'est toujours 10-20% qui en profitent le plus, puisque c'est des aides à la surface. Mais on s'aperçoit finalement... Ce sont des aides à l'exportation aussi. On jure nos grands dieux devant l'OMC, devant les organismes internationaux, que non, on ne subventionne pas l'exportation. Si, on subventionne l'export, on subventionne la production, mais cette production est faite essentiellement pour être exportée.
Qui profite de ces exportations? Hugues, que je t'ai un peu oublié, tu as peut-être ton idée,
mais
toi.
J'écoute bien.
Ouais, mais justement, sur. Est-ce que toi, tu as le sentiment de profiter de l'exportation du blé? Ou est-ce que tu gagnerais pas mieux ta vie avec. Si c'était le boulanger du coin qui t'achetait ton blé? Bon, je raccourcis, mais.
C'est pas simple dans le sens où on parle de compétition. Avec un marché mondial qui, lui, régente, en gros, le cours des céréales et surtout des céréales. Si on va parler que de ça, parce que le reste, je ne sais pas trop. Hein. Mais comment on peut faire pour acheter des intrants? Les intrants, c'est des engrais, les produits, etc., tout ce qu'on a besoin de faire pousser les céréales. Qui coûtait extrêmement cher, alors que on peut pas le valoriser sur nos coûts de production, et étant donné que le prix de vente de notre céréale elle est calée sur le marché mondial, c'est complètement déséquilibré, on va dire, c'est inéquitable, quoi. En plus, quelque part, il faut savoir que nous, dans notre pays de France, on a un système de vie qui est protecteur en matière de santé, en matière d'assistance sociale, etc., etc. Tout ça, ça coûte. Hein. Et comment on fait pour sortir une alimentation au cours du marché mondial? C'est complètement désordonné. C'est ce que j'en pense. Maintenant, vendre mon blé à des boulangers, mais le boulanger, il l'achète il l'achète au cours mondial.
Et est-ce que toi, est-ce que tu aurais envie de cultiver autre chose que du blé?
Mais on fait autre chose que du blé.
Allez, dis-nous tout. Tu travailles combien d'espèces ou
Par exemple, moi, je travaille du blé, de l'orge, d'hiver, de l'orge de printemps, du colza et quelques protéagineux. Voilà. Bon, les protéagineux, c'est pour l'alimentation animale. Hein. Je fais pas de maraîchage, d'accord. Mais blé, orge, colza. En gros, dans ma zone, c'est ce qu'on fait parce que c'est ce qui vient le mieux.
Oui, mais sauf qu'effectivement, cette rotation courte, le fameux BOC, ouais. Alors c'est vrai qu'il est presque traditionnel en Beauce, t'es pas le bon exemple de la diversité agricole, ouais. Même, sauf qu'il y avait un peu plus d'arbres en Beauce il y a pas si longtemps que ça, hein. On pourrait regarder les archives et les photos aériennes. Mais
le problème c'est qu'on est dans la spécialisation, elle est au niveau des exploitations, mais elle est aussi au niveau des régions. Et la Beauce en est un bon exemple, c'est-à-dire que on peut, avec les terres de Beauce, on peut produire plein d'autres choses, mais quid de la filière ? Comment on fait pour vendre ? Si quelqu'un veut faire comme le collègue à l'antenne, veut remettre des bêtes pour avoir un système de fertilisation plus naturel, etc. Une complémentarité, production animale, production végétale, enfin, ça, c'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps, enfin, c'est aussi vieux que l'agriculture.
Oui.
Mais il n'y a aucune filière, aucun débouché localement les animaux, j'exagère à peine, mais ils sont tous en Bretagne, par exemple. Bon, mais il n'y en a pas un seul en Beauce. Donc effectivement, Monsieur le Maître, il est coincé là où il est.
Peut-être ça qu'on aurait attendu d'une loi de programmation agricole, d'être capable de prendre de la hauteur, de penser autrement. Alors que là, c'est, on pense pas autrement, on pense comme avant. Vous l'aurez compris, je suis un peu énervé, moi,
la Beauce, c'est aussi une partie de la Beauce, c'est dans mon département, le département de Haute-Loire, le 28, mais il y a aussi de l'élevage. Hein. On essaye de trouver des diversifications dans des cultures nouvelles, on l'essaye.
Ouais.
Seulement, on n'a pas forcément le débouché qui va derrière. Et puis en plus, ces cultures un petit peu plus, un petit peu plus particulières, elles sont assez hétérogènes dans le résultat, dans la production.
Oui, mais c'est là où on attendait de la planification. Mais bon, les amis, on va être obligé de faire une pause, donc obligé. On vous recommande de faire une pause et de lancer la musique. On va prendre notre respiration ensemble, Hugues, et on va revenir sur ce sujet-là tout de suite, ouais. après la musique.
Ok.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je tremble un peu, je cherche à comprendre. Si tu sais que je mens, cette fois je me ferai prendre. À chaque question, je creuse plus profond ma tombe. Il ne faut pas mentir, je sais, je connais la leçon. Crois ma mentation sincère, chaque jour un peu plus je plonge. Parce que la vie est un enfer, quand nous encercle le mensonge. Se trouver dans tes bras. peux plus, je plonge. Parce que la vie est un enfer quand nous encercle le mensonge. Crois ma lamentation sincère. Chaque jour un peu plus je plonge. Parce que la vie est un enfer quand nous encercle le mensonge.
Eh bien, nous sommes toujours dans les arènes de l'écologie avec Hugues Lemaître à Chartres, ou à peu près, à Bayeux-l'Évêque, et puis avec Thierry Lemaire dans les studios de Radio Aligre. Alors, on était en train de débattre sur cette question de l'orientation agricole, au travers notamment de ce projet de loi qui va devenir maintenant probablement une loi qui va être soumise au vote après la commission paritaire. On était en train de débattre pendant la musique, donc débattre, échanger plutôt. Thierry me disait qu'il y avait eu pourtant beaucoup de discussions entre les parties prenantes, en région, à peu près dans tous les coins de la France, et qu'au final, il n'en sort pas grand-chose, quoi. Et donc il va falloir probablement trouver d'autres moyens parce qu'elle bon, est pratiquement nulle et non avenue cette loi, quoi.
Elle va pas, oui, de ce qu'on comprend. Aux dernières nouvelles, on a réussi à sauver un petit peu l'agriculture biologique est pas totalement absente. Enfin, les objectifs qui étaient inscrits dans la loi sont réintégrés quand même. Donc il faut quand même maintenir les chiffres de progression de l'agriculture biologique. Mais en fait, c'est quasiment, il y a rien sur le foncier, rien sur l'installation transmission. Oui, à part de la cosmétique, c'est-à-dire on change de nom. Alors un coup c'est France machin Active, oui. Un coup c'est on empêche la pluralité des acteurs parce qu'on dit bah, c'est les chambres qui vont tout faire. Et c'est vrai que les chambres sont de très beaux outils de développement agricole, mais elles sont quand même aux mains d'une certaine
oui, parce qu'il y a
partie
quand même,
de la profession.
Ça n'arrive pas non plus par hasard, même si effectivement au final ça ne va peut-être pas chambouler la donne, si ce n'est à la marge quelques régressions ou quelques désavantages. Ou quelques avantages, parce que moi, je pense à un avantage aussi, il y avait cette espèce d'usine à gaz qui frappait les trieurs de semences, mais bon, là, c'est sur des histoires encore très, très particulières, mais bon, a priori, ça devrait être réglé. Hugues, je parle sous ton contrôle, tu préciseras la chose tout à l'heure, je ne sais pas, mais... on a quand même l'impression qu'il ne va pas en sortir grand-chose. En tout cas, ça ne va pas décider un nouvel avenir pour l'agriculture et les agriculteurs. Et si ce n'est qu'on a l'impression que c'est une forme de reproduction des situations acquises et qu'au final, des acteurs qui veulent préserver leurs avantages vont réussir à ne pas faire changer la donne, quoi.
Oui, on ne parle pas de revenus des agriculteurs, on ne parle pas de la transition écologique absolument indispensable pour s'adapter au changement climatique et puis essayer de ne pas en rajouter, parce que l'agriculture est quand même une grande contributrice hein, dans sa version actuelle.
Surtout que le réchauffement climatique, il y a à peine 10 ans, le monde agricole pensait que c'était une lubie des colos. Et depuis 10 ans, tout le monde a compris que l'agriculture était climato-dépendante et a été largement frappée. Hugues, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, moi je pense surtout que ce que j'en sors là, c'est une réflexion sur le coût de la nourriture. Même si, effectivement, il y a eu une phase d'évolution, d'industrialisation, on peut le dire, d'intensification de la production agricole. Ça a permis surtout de baisser le panier de la ménagère. Et ça, tout le monde était OK avec ça. pour sortir de la guerre, il fallait renourrir le peuple français. Et puis, bon, voilà.
Oui, mais on a atteint, par exemple, l'équilibre de l'autosuffisance alimentaire sur le blé à partir des années 70. Donc, ça fait 50 ans qu'on a atteint les objectifs, entre guillemets, de souveraineté par rapport au blé.
Peut-être, ça, moi, je l'ignore. Je n'ai pas ces repères-là, moi. Mais ce que je vois, c'est qu'on a énormément... réduit le coût de l'alimentation dans le panier de la ménagère.
Hein. Ça, c'est clair.
Et du coup, moi, je m'interroge sur la suite qu'on veut. Ah, c'est sûr, on est rodé, là, sur 30 ou 40 ans, on est rodé à avoir intensifié, à caler le on va dire, le cours. On fait notre économie, nous, notre rentabilité, on l'a fait sur le cours mondial. Et quelque part, si on veut faire un parallèle avec l'agriculture biologique qui produit deux ou trois fois moins que ce qu'on appelle en conventionnel, il faut que le cours des produits, il est multiplié par trois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si on veut aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, ça va coûter plus cher.
Oui, mais je pense qu'une réorientation agricole, ce n'est pas forcément uniquement l'amélioration de rapport avec l'environnement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi choisir des productions qui soient, pour les agriculteurs, plus rémunératrices? Parce que le blé, ce n'est pas quand même ce qu'il y a de plus cher. Hein.
Oui, mais là, je comprends, mais on focalise sur le blé. Mais on est tous à la recherche de production avec meilleure valeur ajoutée. C'est dans nos esprits, on cherche. Mais d'abord, le terroir ne permet pas de tout faire.
Ça, c'est vrai.
Parce qu'il y a le terroir, mais il y a la qualité de la terre, la fertilité, sa fertilité naturelle déjà. Et ensuite, il y a le climat. Et évidemment, il change. Bon, d'accord. Mais pour preuve, c'est qu'en Beauce, on est arrivé à cultiver de la lavande. Hein. Et il y a plein de choses qui bougent toutes seules, au fil du temps, comme ça. Hein, il y a plein de choses, mais il faut avoir un débouché derrière. Alors ça, il y a des coopératives qui réussissent à le travailler, à trouver la filière. À contrario, je vais parler de la viande. On l'a évoqué tout à l'heure, de faire de l'élevage dans un département céréalier. Quand il n'y a plus d'abattoir, quand il n'y a plus de structure pour aller au bout de la chaîne. Eh ben on est démuni. Et moi je l'ai fait par l'expérience de vouloir faire du comment dire
un peu de mouton, non?
Non, ouais, mais moi ça c'est familial, on va dire. Mouton c'est puis après il faut être prêt à faire tout ça, c'est un vrai boulot, quoi. Mmh. Hein. Mais rien qu'en parlant de culture, faire du sarrasin, j'en ai fait 2 ans, surtout, et puis ben, on s'aperçoit que les conditions, elles sont pas toujours au rendez-vous pour faire une récolte convenable. Hein. Faire du millet, c'est compliqué, il n'y a aucun débouché. Et pourtant, ça serait intéressant à faire.
Et ben voilà, c'est ça dont on aurait voulu parler.
Et ben oui.
Ouais. Mais
Oui, parce qu'en plus, c'est une plante qui... C'est une espèce qui se... Qui a des capacités par rapport à au problème de sécheresse ou de
bon, choses comme
ça. Donc effectivement, il faut. Mais ça.
Donc on aurait.
On convient qu'il n'y a pas d'orientation claire qui est donnée. On continue à balancer le pognon ou même. Et essentiellement, moi, ce que je veux dire, c'est. Vous avez prononcé le mot important, hein, c'est la valeur ajoutée. On est quand même essentiellement sur la production de masse. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas tant la qualité et sur des filières longues.
Je vais être obligé de vous couper parce qu'on fait signe, mais je crois qu'on va rouvrir une deuxième émission sur l'agriculture, Hugues, si tu veux bien. Peut-être en poussant des... Alors, j'avais repéré le 5 mars comme une date où on aurait pu continuer sur ce débat, ou cet exposé, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire comprendre, à partager. Là, il me reste à remercier la technique, nos chers amis de la technique qui ont tout réussi aujourd'hui, formidable. Bah écoutez, à la semaine prochaine. Voilà, on m'a envoyé le générique. Bon, je vais laisser Malheur opérer. À bientôt, salut.
Ok, merci à tous. Au revoir.
À bientôt. Je te rappelle, Hugues.
Ok, ça marche.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.